s'occuper des affaires de tout, faire la justice. Non, pratiquer la justice, c'est simplement faire les œuvres qui découlent de la foi, faire ce qui est juste, faire ce qui est plaît à Dieu, obéir à Dieu. Vous savez, quand on dit c'est un croyant pratiquant, un croyant, il pratique des choses pour Dieu, pas pour être accepté de Dieu, parce que le salut, c'est une grâce et aucune œuvre pourra faire qu'on puisse être accepté de Dieu. Donc quand on aime Dieu, quand on a la foi, on fait des choses pour lui plaire parce qu'on l'aime. Et donc voilà, pratiquer la justice, c'est un peu ce qu'on fait pour obéir à Dieu. Et pour aider à comprendre cette vérité, Jésus, il va prendre donc trois exemples dans ce texte, trois actes fondamentaux de la piété dans le judaïsme. Les personnes de l'époque, les juifs, étaient pieux. Et il va prendre trois exemples pour illustrer donc cette vérité de faire attention de ne pas pratiquer sa justice devant les hommes. Et donc on va voir donc les œuvres de charité, l'aumône, la prière et le jeûne. Alors ce chapitre, il commence par cette mise en garde de ne pas étaler notre piété, ne pas étaler ces choses que l'on fait pour Dieu pour être vu des autres. Il est en train de dire, tes actes, ce que tu fais là, ne le fais pas pour qu'on dise que tu es un bon chrétien, quel homme de Dieu, quelle femme de Dieu. Jésus ne remet pas en question nos œuvres, il remet en question nos motivations. Et c'est terrifiant, mais en même temps tellement rassurant. Dieu, il sait ce qui se passe dans nos cœurs. Il connaît nos cœurs parfaitement, il nous a créés, il nous connaît. C'est terrifiant, mais c'est tellement rassurant. Alors, je vais continuer la lecture. On va prendre ce premier exemple, l'aumône. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret et ton père qui voit dans le secret te le rendra. Voyons un peu de plus près, qu'est-ce que l'aumône ? L'aumône, on le lit dans la loi de Moïse, donc dans les premiers livres de la Bible, qu'il y aura toujours des indigents dans le pays, c'est pourquoi je te donne ce commandement, tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent. L'aumône, on peut dire que c'est le soutien donné aux pauvres, le soutien donné à ceux qui sont dans le besoin. Et donc on le voit dans l'Ancien Testament, il y avait des récoltes et il laissait une part pour les pauvres. Il y avait toujours une parcelle de terrain qu'il laissait pour les pauvres. Et il y a plein de références. On voit aussi que dans les banquets, dans les fêtes annuelles, ils devaient inviter, les juifs devaient inviter le pauvre, l'étranger, l'orphelin, la veuve. Voilà, ça c'est l'aumône. Et dans le Nouveau Testament, c'est pareil, on retrouve toujours cette idée d'aumône. Et j'ai deux textes pour nous le montrer. Dans 1 Timothée 6, 18, je vais juste le lire. « Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. » Et un autre passage encore qui nous explique que « Si quelqu'un possède, c'est dans 1 Jean 3, « Si quelqu'un possède des biens du monde, et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure en lui ?» Donc l'aumône, et pour nous aujourd'hui, est vraiment à comprendre au sens large, ce n'est pas seulement financier, les dons, qu'on fait, même si là, il parlait vraiment l'aumône, les dons faits par les juifs de l'époque. J'aimerais qu'on puisse élargir un peu ce matin, se dire, ce qu'on fait, ce qu'on donne, ça peut ne pas être financier, ça peut être juste quand on donne un coup de main à quelqu'un, quand on aide, ça peut être un soutien scolaire, ça peut être un déménagement. Ce qu'on fait pour notre prochain. Que rappelons-le, le Seigneur, ce qu'il veut avant toute chose, c'est qu'on aime notre prochain. Et quand on aime, on donne. Dieu, il nous a tant aimé qu'il a donné Jésus pour nous. Donc comment faire, comment donner? On va regarder un peu plus la mauvaise façon de pratiquer l'aumône. Je lis au verset 2, « Ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. » Les Juifs, à l'époque, ils se faisaient précéder d'un serviteur qui sonnait de la trompette en annonçant son maître, la venue de son maître. Et ils annonçaient même ce qu'ils donnaient. Les bancs de devant, il y avait leur nom inscrit, et les pauvres, eux, ils étaient dehors et ils attendaient. Et vous vous rendez compte? Mon maître arrive, il va pratiquer la justice qui plaît à Dieu. Et ils annonçaient. À haute voix même, les sommes qu'ils donnaient. Et c'est très simple, Jésus il commande de ne pas faire une action dans le but d'être applaudi ou reconnu des hommes. Si on s'arrange pour que ça se sache ce que l'on donne, ce qu'on donne n'a pas de valeur devant Dieu. Si on cherche l'approbation des hommes, le verset nous le dit, nous sommes des hypocrites. Notre culte n'est pas alors un culte de reconnaissance, mais un culte d'hypocrite. Tout ce que nous faisons pour quelqu'un, la Bible nous le dit à la fin de l'évangile de Matthieu, ce qu'on fait pour quelqu'un, c'est pour Dieu qu'on le fait. Oui, certes, on va aider la personne, mais c'est Dieu qu'on sert au travers des êtres humains. Donc ce qu'il faut retenir un peu c'est une attitude, une motivation qui sont les plus importantes que le don lui-même. Ça vous rappelle peut-être une histoire de cette pauvre veuve qui avait donné 2 pièces. Elle avait donné de son nécessaire et pas de son superflu. Et Jésus dit, elle a donné plus que tout le monde. Elle n'a pas donné ce qui lui restait à la fin du mois, ou quoi. Elle a donné vraiment de son nécessaire. Et ça a de la valeur devant Dieu, même si c'était que 2 pièces. Ce n'est pas le don en lui-même, c'est la motivation, c'est la façon de le faire. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Verset 2. Alors c'est quoi cette récompense ? Elle est très simple. Ce sont les applaudissements, l'approbation, la reconnaissance, la belle réputation de quelqu'un de pieux qui donne, qui est généreux. Et Jésus considère que c'est suffisant. Ils ont leur récompense. Ils sont applaudis, on a vu ce qu'ils donnaient, tout ça. Il y va un peu fort avec ces personnes-là. Vous savez, un chrétien peut parrainer un enfant du sel, avoir sa photo, une belle photo sur le frigo, se faire passer pour quelqu'un de généreux. Nos amis vont trouver qu'on est généreux. Si c'est le but de plaire aux hommes, de montrer, nous sommes des hypocrites. On peut donner de l'argent à la collecte de façon régulière, mais juste dans le but que les autres nous voient et qu'ils disent encore qu'on est généreux, qu'on est constant. Si c'est notre but, nous sommes des hypocrites et voilà notre récompense. Quel homme de Dieu, oh, il est généreux. Dieu connaît nos cœurs, il sait pourquoi nous faisons les choses, c'est inutile donc de lui cacher et il faut regarder à ce qu'il y a dans nos cœurs. Alors comment ne pas chercher l'approbation des hommes ? C'est très difficile, moi ça m'a... Vous savez, il y a quelqu'un qui dit dans la Bible, ce qui me dérange, ce n'est pas les passages que je ne comprends pas, c'est les passages que je comprends. Et moi ce texte, il m'a vraiment retourné, il m'a vraiment remis en question. Alors, il faut qu'on cède. Et on va s'aider de la parole de Dieu. Comment on peut faire pour ne pas chercher l'approbation des hommes, mais celle de Dieu seul ? Et la réponse, elle est au verset 3. Que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Et cette image, elle est très forte, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, votre main gauche, elle sera tout le temps à côté de votre main droite. Quoi que vous fassiez, elle sera là. Et l'image, elle est super simple, elle est super belle. Voilà, quand tu fais quelque chose avec ta main droite, celle-là, elle ne doit même pas savoir ce qui se fait. Ça montre vraiment que c'est la discrétion. Afin donc que ton aumône se fasse en secret et ton père qui voit dans le secret te le rendra. Et c'est quoi cette récompense ? Le texte ne nous dit pas quelle est cette récompense. On ne sait pas ce que le Seigneur va donner. On sait qu'ils ont leur récompense, ceux qui cherchent à plaire aux hommes, mais on ne sait pas c'est quoi notre récompense. Imaginons seulement la différence entre l'appréciation des hommes et l'approbation du Créateur de l'univers. Ça doit être vraiment, 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 vraiment excellent. Cette récompense, ce n'est pas le salut. J'espère que tout ce matin, vous savez que ce n'est aucune œuvre ne pourra plaire à Dieu si elle n'est pas faite. Si c'est marqué dans la Bible, il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Les œuvres, elles découlent de la foi. Le salut, c'est une grâce. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est une folie. Quand j'en parle à des amis, ils me disent « c'est de la folie ». Donc la récompense qu'on aura de Dieu, ce n'est pas le salut. Le salut est une grâce. Mais nous savons que notre vie, elle sera évaluée. Et j'ai retrouvé ce texte, c'est dans 1 Corinthiens 4, au verset 5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins du cœur. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Le Seigneur va rendre selon ce qu'on a fait, selon la façon dont on a fait. Dans la Bible, quand on regarde un peu l'ensemble des textes, on peut voir qu'on peut être sauvé comme au travers du feu, ou on peut être sauvé et couronné par le Seigneur. Alors maintenant, j'aimerais juste par contre qu'on voit quelques erreurs d'interprétation souvent de ces textes. Ce texte ne dit pas qu'on ne doit rien faire en public. Il ne dit pas qu'il y ait certaines sommes qui ne doivent pas être révélées. Des fois, nous avons il y a le CA qui se réunit, il vote des budgets, il y a bien des sommes, on sait ce qui a été donné ou pas, ce qu'on va mettre à tel endroit ou quoi. Ce n'est pas ça que le Seigneur dit. Il parle vraiment d'une tendance de nos cœurs à vouloir afficher les choses. Et si vous êtes comme moi, vous voyez de quoi parle le texte. Un commentateur a écrit, je le reprends parce qu'il explique tellement mieux que moi, ce n'est pas la dissimulation qui est requise, mais c'est l'ostentation qui est à éviter. Ce n'est pas qu'on ne doit rien faire en public. Et j'aimerais reprendre au chapitre 5, le verset 16, qui nous explique vraiment. Celui-là, par contre, vous pouvez pencher les yeux dessus sur votre Bible. Matthieu 5, au verset 16, qui nous dit « Que votre lumière luise, brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Donc ce texte ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire au public. Au contraire, on doit faire les choses, mais pour que les gens, quand ils voient ça, ils voient Dieu. Ils ne nous voient pas nous, ils ne nous applaudissent pas nous, mais ils se disent « Mais ils ont un grand Dieu, ces gens. Regardez ce qu'ils font. » Mais que ça pointe vers Dieu. Vous savez, les actions sociales, c'est super. Mais peut-être que le problème, c'est que des gens, si on ne communique pas avec le message divin, peut-être que les gens, ils vont dire du bien de nous, plutôt que de dire du bien de Christ. Alors c'est très difficile, on ne peut pas à chaque fois aller dire « Bonjour, je vous offre un cookies, mais sachez, c'est parce que Jésus... » Voilà, mais vous comprenez que c'est un poteau indicateur, il faut qu'on annonce aussi que ces choses-là, on les fait pour Dieu, parce qu'on aime Dieu, et que les gens ils puissent vraiment glorifier Dieu. Et le jour où ils vont rencontrer Jésus, ils vont dire « Waouh, ces gens, ils m'ont montré Dieu. » Ils ne m'ont pas montré eux. Deux personnes peuvent avoir la même activité, le même service, faire la même chose, mais il y en a un qui cherchera l'approbation des hommes et l'autre l'approbation de Dieu. De l'extérieur, nous, on a tendance peut-être à juger « Oh là là, il en raconte beaucoup, il dit beaucoup de choses, lui, il a les mauvaises motivations. » Vous ne le savez pas. Deux personnes peuvent vous raconter le même événement, il y en a un qui se glorifie, l'autre pas. Il y a quelque chose de plus sournois encore. Vous pouvez faire un virement automatique en début de mois à la trésorière, mais vous glorifiez d'avoir fait les choses dans le secret. Moi, je suis discret, je suis comme le texte, là, discrétion, mais vous vous en glorifiez. Quand je pensais à cet exemple, alors que quelqu'un peut vraiment donner comme ça le matin et vraiment dire gloire à Dieu. Et moi, ça m'a brassé, comme on dit, ce texte, de réaliser que je me suis dit, mais j'ai le cœur complètement pourri, mais comment je peux faire? Et j'ai besoin du Seigneur. Vous savez, plusieurs fois j'ai fait des choses pour vous plaire, à vous. Plusieurs fois j'ai fait des choses pour plaire à mes anciens, pour plaire à des gens. Il y a des fois, j'ai raconté des événements. Vous savez, je fais beaucoup d'évangélisation, j'aime bien parler de Dieu. Et il y a des fois, je rentre, j'ai fait des campagnes d'évangélisation où je rentrais le soir et je racontais ce qui s'était passé dans la rue et je voulais que les gens pensent du bien de moi. Je voulais que les gens se disent « Waouh, il a des facilités, il a un don. » J'ai pleuré en réalisant ça. Plein de fois, pour vous plaire à vous, pour les copains, les copines, les anciens, les gens. Il est super, David. Plein de fois j'ai fait des choses. Plein de fois, pendant vos prières, je préparais la mienne pour qu'elle sonne bien, qu'elle soit belle, qu'elle soit théologiquement correcte, dense, riche. Plein de fois. Alors, priez pour moi. Moi, je me retrouve dans ce texte, je cherche à plaire aux hommes. Mais j'aime mon Dieu, je sais ce qu'il a fait dans ma vie, et je remercie la parole de Dieu de me remettre en question, et j'ai pu lui demander pardon, plein de fois, avant l'été, alors que j'allais faire plein de camps. Le Seigneur, il m'a repris, j'étais avec un frère de l'Église. C'était magnifique. Et je le remercie parce que c'est une preuve d'amour de Dieu. Il nous reprend parce qu'il nous aime. Et il ne voulait pas que je me retrouve devant lui tout nu, quoi. Et j'ai besoin régulièrement. Et je vous remercie de prier pour moi pour la suite. Parce que je vais servir Dieu toute ma vie, mais il faut que je fasse très attention. Ça me rassure de voir que Paul et Barnabas, dans le livre des Actes, ils racontèrent tout ce que Dieu nous dit le texte, ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Ils faisaient la même chose, ils rentraient, waouh, c'est fou, les gens ils croient, ils entendent l'évangile et ils croient, ça marche. C'est vrai, c'est notre Seigneur. Mais ils cherchaient la gloire de Dieu. Ils se considéraient simplement comme les instruments de Dieu. Vous savez, il y a une formule, quand on reçoit un compliment ou quoi, on dit « gloire à Dieu ». Mais c'est vrai, on peut vraiment prendre ça et dire « Seigneur, c'est pour toi ». Ou on peut le dire comme une formule, mais à l'intérieur du cœur, on se dit « je suis pas mal ». C'est dans le cœur que ça se passe. Nous on va se juger, hein. Nous sommes des humains bien faibles, on va dire... Vous savez, on voit un comportement, on essaie de revenir comme ça et se dire quelle était la motivation, vous ne le savez pas. Il peut y avoir quelqu'un qui raconte comment s'est passé Noël en fait, tout content et il rend gloire à Dieu. Et je vous dis que Dieu il va être glorifié pendant cet événement. Ça va être magnifique. Il me tarde que ça commence. J'ai une question à nous poser. Est-ce qu'on donne avec le cœur? Est-ce qu'on veut juste faire les bons chrétiens généreux, soulager notre conscience? Et est-ce que vous êtes conscient, est-ce qu'on est conscient ce matin qu'en fait on ne donne pas, on rend à Dieu. On n'a rien qu'on ait reçu, on rend les choses à Dieu. Le deuxième exemple que Jésus va prendre pour illustrer cette vérité, il est passé, il n'y est plus. Il n'y est plus. Je vous prie de m'excuser, je vous invite à lire dans vos Bibles, donc à partir du verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. La prière, voilà donc cette deuxième pratique qui plaît à Dieu. Quelle est cette prière qui plaît à Dieu? Et comment, encore une fois, être sûr qu'on cherche à plaire à Dieu et pas aux hommes? Le contexte, en fait, à l'époque, il y avait des heures fixes pour la prière et il y en a qui aimaient bien aller et montrer qu'ils étaient en train de prier. Montrer qu'ils accomplissaient leurs devoirs religieux. Et Jésus parle d'eux. Il se montrait dans les rues. Merci. Donc le problème n'est pas d'être assis ou debout quand on prie, mais juste de ne pas chercher encore une fois à plaire aux hommes. Il y a une répétition dans ce texte qui a vraiment une valeur pédagogique pour nous. Ne cherchons pas à plaire aux hommes, sinon nous sommes des hypocrites. Est-ce qu'on est pieux chez nous, dans nos semaines, ou juste dans une réunion de quartier? Est-ce qu'on a une vie de prière? Il y a un professeur à l'Institut biblique de Genève qui me disait, si tu veux mettre mal à l'aise des gens, un pasteur ou n'importe qui, tu peux lui demander « Comment va ta vie de prière ?» Et ça fait bizarre ma vie. Et voilà, on peut aller aux réunions de prière. Venez. C'est génial. Mais dans quel état d'esprit on vient, encore une fois? Vous savez, on peut avoir l'air recueilli au culte, avoir un air pieux, mais juste pour chercher à être vu ou reconnu. Passer pour quelqu'un de spirituel qui pratique la justice. Et le Seigneur nous dit, gardez-vous de pratiquer cette justice pour être vu devant les hommes. On s'adresse à Dieu quand on prie, c'est tout. Alors oui, il y a des prières qui sont encourageantes. Moi, il y a des prières, elles me font tellement de bien. Mais premièrement, on s'adresse à Dieu. Et oui, comme on dit, des choses qui plaisent à Dieu, c'est sûr que ça nous encourage. Parce que notre prière, elle s'alimente de la parole de Dieu. Quel est ce Dieu? C'est le Dieu de la Bible que nous prions. Donc bien sûr que ça encourage. Il y a une mauvaise façon aussi, c'est le côté mécanique de répéter les prières. Il dit comme font les païens, ça vous rappelle peut-être une histoire où il y avait ce peuple qui priait du matin jusqu'au soir pour que Dieu leur réponde. Mais leur Dieu, il n'existe pas. Il n'existe pas du tout. Et il priait, il pensait qu'il allait intervenir, mais il priait un Dieu qui n'existe pas. Ne multipliez pas de vaines paroles, le côté un peu formule magique. On répète une prière et du coup, ça va arriver parce qu'on l'a répété plusieurs fois. Certains musulmans et même certains catholiques, ils maintiennent qu'il y a un mérite dans la répétition de certaines prières, un bon nombre de fois. Mais Dieu n'est pas un jukebox. On ne peut pas, plus je prie, plus je répète la chose, plus elle va arriver. Ce n'est pas un distributeur. Il n'y a pas une bénédiction particulière à répéter la chose. C'est vraiment ici ce que veut dire le texte. Pas être mécanique. Donc voyons la bonne façon de prier avec simplicité. Devant Dieu, on s'adresse à Dieu, à lui seul. Que nos prières ne soient pas juste des belles phrases ou des formulations sans faute de syntaxe ou de théologie. C'est au Créateur de l'univers que vous vous adressez quand vous priez. Priez avec le cœur. Vous allez peut-être dire des bêtises ou peut-être dans la chronologie des choses. Priez, Priez, s'il vous plaît, priez le Seigneur. Avec intimité, mais quand tu pries, verset 6, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Jésus parlait d'un petit cagibi qu'il y avait dans les maisons galiléennes, il n'y avait que deux pièces, et il y avait ce petit un peu cagibi. C'est ce que le Seigneur veut montrer là, c'est ayons des moments de qualité avec Dieu. Il n'y a pas que dans la pièce, dans votre chambre, que vous pouvez prier. Priez partout. Mais avoir ces moments de qualité avec Dieu, seul à seul avec lui, éloigné de tout ce qui peut faire obstacle à notre communion, à notre intimité avec lui. Recherchez ces moments vraiment seul à seul avec Dieu. Jésus, lui, il allait dans le désert pour prier. Si vous lisez, il y a un miracle, il se passe quelque chose et il se retire dans le désert et il prie. Il ne fait pas un spectacle, un one-man show. Derrière, il se retire. Les gens viennent le chercher, ils veulent encore voir des miracles. Lui, il prend du temps avec son Père. Vous savez, c'est dans ces moments isolés, ces moments seuls, où vous allez vraiment pouvoir intercéder pour quelqu'un. Il y a des prières, on ne peut pas les faire en public. Vous allez vraiment pouvoir intercéder. Vous allez pouvoir dire des choses que vous n'auriez même pas dire. Avec du monde, même avec deux, trois frères, même avec votre meilleur frangin, frangine. Vous ne pourriez pas. Est-ce que nous avons ces moments de qualité dans notre chambre avec le Seigneur ? J'aimerais encore une fois qu'on puisse voir ce que ces versets ne disent pas. Ces versets ne disent pas qu'on doit prier courtement. Prière pop-corn. Bien sûr, c'est super quand on aimerait multiplier le nombre de prières et permettre à tout le monde de prier, mais on peut prier longuement. Vous avez beaucoup de choses peut-être à dire au Seigneur. Priez, priez longuement. Jésus, il priait des heures. Avant de choisir les 12, il a prié toute la nuit. En 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il nous est dit de prier sans cesse. Donc ce passage ne dit pas qu'on doit faire que des prières courtes. Ce passage ne dit pas non plus qu'on ne doit pas prier avec insistance. Hein, le côté mécanique, c'était vraiment la formule magique. Mais bien sûr que nous pouvons insister, faire la même prière plusieurs fois, n'a rien de mal en soi. Moi, je prie tellement de fois pour que des amis à moi puissent rencontrer Jésus. Je prie tellement pour vous ici ce matin, que vous, si vous ne connaissez pas Jésus, vous puissiez le rencontrer. Et vivre ça. Et je répète des prières. Jésus lui répétait, il a répété à trois reprises, s'il est possible que cette coupe s'éloigne quand il était dans le jardin de Gethsémané. Je pense que l'insistance est même une vertu qui montre notre besoin, notre dépendance envers Dieu. Prions avec persévérance. Vous vous rappelez cette parabole du juge inique, le juge méchant ? Il y a une dame qui aimerait qu'on lui fasse justice et elle prie ce juge et elle insiste, elle prie, elle lui demande. Et le juge méchant, au bout d'un moment, pour qu'elle le laisse un peu tranquille, elle lui accorde ce qu'elle a demandé. Et cette parabole nous dit, et votre Seigneur, votre Dieu, qui n'est pas un juge méchant, qui est un juste juge plein d'amour, priez-le. Un commentateur, encore une fois, a bien formulé la chose. Si la reproduction de la même pensée ou des mêmes paroles correspond au besoin qu'éprouve l'âme d'insister sur le même sentiment. Et si on le fait avec une chaleur croissante, il n'y a pas là de veine redite. Dieu n'aime pas juste les formules toutes faites que nous penserions être magiques. Ce passage ne dit pas non plus qu'on ne doit pas prier en public. Regardez, Matthieu 18 au verset 19, je le lis. « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Nous devons nous retrouver aussi, prier ensemble, nous avons besoin les uns des autres. » Au verset 8, on lit quelque chose un peu de spécial. « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. » Alors pourquoi on prie ? Vous exposez vos besoins à Dieu ? Vous pensez lui apprendre quelque chose ? Il le sait déjà. Est-ce que vous savez pourquoi on prie ? Les besoins, on doit les exposer au Seigneur. Philippiens 4, 6 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Nous n'apprenons rien de nouveau à Dieu quand nous prions. Mais c'est le propre d'une relation. Nous avons une relation avec notre Père. Donc nous discutons, nous pouvons le prier. Montrer notre dépendance, notre besoin de lui. On n'a pas besoin de tout comprendre sur la prière. Mais on sait qu'on doit prier sans cesse, qu'on a cette relation avec notre Père et qu'on peut s'adresser librement à lui. Alors prions, ayons cette relation que Jésus lui-même avec son Père, cette proximité. Et il va nous le montrer, qu'il faut prier, parce que la suite du texte, c'est ce fameux « Notre Père ». Voilà donc comment il faut prier. Versets 9 à 13. Et j'aimerais, il y aurait tellement de choses à dire sur ce passage, et vous en avez entendu aussi beaucoup parler, j'aimerais faire juste quelques remarques. Notre Père qui est aux cieux, voilà où il est, et vous êtes sur terre. Et il est au ciel et il fait ce qu'il veut, nous dit le psaume 115. C'était une expression un peu spéciale d'appeler Dieu son Père. Les gens pensaient que Jésus était un blasphémateur. 17 fois dans le sermon sur la montagne, on entend cette expression « Notre Père ». C'était choquant, c'était trop familier. Mais dans les chants tout à l'heure, on en parlait, c'est notre Père. Il nous aime, nous avons cette relation avec lui. Que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que ton nom soit reconnu. Voilà une question alors qu'on pourrait se poser. Est-ce que moi, comme Jésus a porté sur terre le nom de Dieu, est-ce que moi, dans mon entourage, je porte le nom de Dieu aux gens? Que ton nom soit sanctifié, ton nom est saint. Est-ce que dans notre façon de vivre, on manifeste Dieu? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pourquoi on prie que la volonté de Dieu soit faite alors qu'elle le sera? La volonté de Dieu, elle sera toujours faite. Son règne, il va venir. Alors pourquoi on prie ça? Dieu, il veut qu'on s'associe à ces choses-là. Dieu, il a toujours choisi des hommes. Souvent, on entend, on ne peut rien faire seul et Dieu ne veut rien faire sans nous. Dieu, il a toujours choisi des hommes. Regardez dans la Bible. Nous devons prier que la volonté de Dieu soit faite. Jésus disait que ta volonté soit faite et non la mienne. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'était pendant en juillet, il y avait eu un événement avec des jeunes de Dallas, et il nous a dit quelque chose qui nous a vraiment fait du bien. Il disait, vous savez, un père, quand il veut laver sa voiture, il demande à son fils de venir l'aider. Le fils, il ne va pas apprendre à son père à laver une voiture, il va peut-être user le dos vert, vous savez, le côté un peu plus... il va décaper la voiture, il va peut-être même prendre l'eau sale pour laver la voiture. Mais le père, vous savez ce qu'il veut juste? Il veut être avec son enfant. Il veut passer du temps avec son enfant. Et la volonté de Dieu, Dieu, il veut se servir de nous, il veut nous utiliser, il ne nous a pas sauvés pour qu'on l'attende. En se tournant les pouces. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le chrétien est appelé à vivre au jour le jour. C'est pas nous donner le pain pour dans un mois ou dans deux mois ou trois mois. C'est fort, notre pain quotidien. Les gens dans le désert avaient la manne qui tombait du ciel tous les jours. Cette manne, elle se périssait en 24 heures. Ils en avaient besoin chaque jour. Au jour le jour, ils avaient besoin de cette manne. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Celui qui ne pardonne pas à ses semblables, il ne faut pas qu'il s'attende à ce que Dieu le pardonne. C'est ce qu'est en train de dire ce passage. Alors bien sûr, ce n'est pas le pardon de notre péché, de ne pas vouloir reconnaître Dieu. Je vous ai dit, et la Bible dit, c'est une grâce d'être sauvé. Mais ici, il est parlé de cette communion qu'on a avec Dieu. Comment on peut être en communion avec Dieu si on n'arrive pas à pardonner à notre prochain? Ce pardon-là, c'est le pardon qui est dans 1 Jean 1,9 que vous connaissez tous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. C'est tous ces obstacles qu'on vient mettre entre lui et nous. Il veut les enlever. C'est pour ça qu'on a besoin de se purifier par la parole, par la prière, par la repentance. Donc, votre salut, même si vous ne pardonnez pas à quelqu'un dans votre entourage, votre salut n'est pas remis en question. Rien ne peut vous enlever votre salut. Vous avez été scellé par le Saint-Esprit. Mais pour retrouver pleinement une communion avec Dieu, il faut pardonner aussi à ceux qui nous offensent. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Satan existe, le diable existe. Il y a beaucoup de gens qui ont rencontré Dieu quand ils ont découvert la puissance du diable. Ils ont dit, mais si il existe, Dieu doit forcément exister. Que le Seigneur nous aime à ne pas tomber et à vraiment marcher dans ses voies et à résister à Satan. Et j'ai plusieurs questions qui correspondent à ce qu'on lit dans le Notre Père. Qui est-ce qui a le droit d'appeler Dieu son Père? Qui est-ce qui cherche la sainteté et la gloire de Dieu par-dessus tout? Qui désire l'avancement du règne de Jésus-Christ? Qui est-ce qui sait borner ses désirs terrestres au strict nécessaire? Qui est-ce qui a appris de la part du Seigneur le pardon des offenses? Qui est-ce qui enfin résiste à Satan et supplie Dieu de l'aider? Vous savez c'est quoi la réponse? C'est un disciple de Jésus-Christ. Si on a le temps à la fin, il y a un chant que j'ai vraiment à cœur et que j'aimerais qu'on prie. Et on devrait avoir le temps. Poursuivons notre lecture avec un troisième exemple, le jeûne. Alors, lorsque, je lis, hein, donc, à partir du verset 16, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Encore une fois, la même répétition. Quand on jeûne, ne pas le faire pour le montrer. Alors le jeûne, on en entend très peu parler. C'est vrai que c'est un sujet où on n'en parle pas trop. Et moi, j'ai un peu regardé dans la Bible. Ce n'est pas un commandement. Hein. Le Seigneur nous dit « vous devez jeûner ». Non, il est en train de dire « si vous jeûnez, voilà comment vous devez le faire ». Alors le jeûne, souvent dans la Bible, il est associé à la tristesse, la prière, la charité, la recherche de la volonté de Dieu. Hein, avant d'envoyer Paul et Barnabas, ils ont prié, ils ont jeûné. La maladie. À l'époque, pour vous remettre le contexte, les Juifs, donc, ils aimaient pratiquer le jeûne pour être vus et admirés des autres. C'était vraiment une marque de piété à l'époque que de jeûner. Et alors, ils avaient l'habitude d'avoir un air triste, de se verser de la cendre sur la tête, vous imaginez ? Et même de s'habiller avec des sacs. Apparemment, c'était vraiment un signe d'humiliation. Mais ils se montraient qu'ils étaient en train de faire des sacrifices pour Dieu. Ça, c'est condamné par le Seigneur. Donc, la bonne façon de jeûner, ça serait donc avec discrétion. Si vous jeûnez, vous avez un sujet particulier à cœur, vous avez envie de montrer au Seigneur que ce sujet est plus important que tout, et vous pouvez jeûner. Alors, le jeûne, ça peut être vraiment individuel, ça peut être fait en groupe. On pourrait, un midi, se dire, on va tous rester à l'église, et on ne se fait pas de repas en commun, on jeûne tous, et on prie pour que notre église... Elles grandissent, on prie pour que le Seigneur nous encourage dans notre vie à chacun. Jésus veut que ses disciples retrouvent le vrai sens du jeûne. Et vous savez, le jeûne, on aime dire, on l'entend, ça peut être un jeûne, comme on dit, de Facebook, de télé, de telle ou telle relation, quelqu'un qui appelle trop souvent sa petite amie ou sa chérie, voilà. Il y a plein de jeûnes, c'est pas, là, il parle du jeûne de la nourriture. Mais on peut montrer au Seigneur qu'il est notre priorité et se priver de certaines choses. C'est pas ça qui fait que... qui répondrait mieux à notre prière. C'est juste un temps où on veut se consacrer pleinement à Dieu et on veut mettre de côté les choses. On prend ce temps pour lui. Une petite définition. Le jeûne, c'est faire participer notre corps à nos exercices d'âme et d'esprit pour mieux nous consacrer à notre relation avec Dieu. J'aimerais conclure ce matin... Et c'est vraiment au travers de ces trois exemples, donc l'aumône, la prière et le jeûne, qui étaient vraiment trois actes fondamentaux de la piété. Quoi. C'était comme ça qu'on montrait avant qu'on était quelqu'un de pieux, c'était ça un vrai israélite. C'est au travers de ces trois exemples que Jésus il explique ce qui a vraiment de la valeur. C'est la façon de faire des choses. Vous savez, dans la Bible, il est écrit que l'homme il regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu lui il regarde au cœur. C'est terrifiant. Mais c'est tellement rassurant. Parce qu'une fois qu'on sait qu'on fait les choses pour lui, on peut dire « Ouah, c'était super bien, Noël en fait !» On peut dire « Ah, on sait qu'on s'adresse à Dieu. On sait que c'est pas pour les autres, c'est pour Dieu lui-même. » Mais si on cherche à plaire aux hommes, si on cherche à être bien vu des hommes, on enlève la gloire à Dieu. Quand on fait les choses, un chrétien, quand il fait les choses, c'est pas pour être accepté de Dieu, c'est parce qu'il a été accepté. Du coup, ces œuvres, ce sont vraiment des œuvres de reconnaissance. Frères et sœurs, Dieu est digne que nous fassions toutes choses pour lui, pour sa gloire, pour le remercier. On lui doit tout, il est Dieu. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse ensemble prendre du temps dans la prière et se remettre en règle, si on a à se remettre en règle. Moi, ça m'a fait mal et je crois que je vais avoir besoin de le faire très 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 régulièrement. J'ai besoin de chercher à plaire qu'à Dieu seul dans tout ce que je veux faire pour lui. Il y a un autre professeur de l'IBG qui s'appelle David Schutz, que vous connaissez, ceux qui font les scouts. Il disait qu'il faut chercher à être des chrétiens non pas remarqués, mais remarquables. Et j'ai bien aimé cette petite phrase. Et le Seigneur, il nous récompensera. Et pensez à ça, la récompense du Dieu créateur de l'univers comparée à l'appréciation de quelqu'un. Oh, il est bien. J'ai une question pour vous ce matin. Est-ce que notre comportement extérieur de piété reflète une réalité spirituelle intérieure? Sinon, nous sommes des hypocrites. Et vous savez, le mot hypocrite, il tire son origine dans le théâtre grec. C'était des gens qui portaient un masque. Est-ce que ce matin, on a envie de faire tomber le masque? Ou est-ce qu'on prend notre vie avec Jésus pour un théâtre? Est-ce que notre service, c'est un théâtre? Où on veut juste se montrer? Est-ce qu'on est prêt à faire tomber le masque et à vivre la purification de nos péchés et retrouver une pleine communion avec Dieu? Et j'aimerais juste qu'on chante un chant, que l'Esprit de vérité, le numéro 151, et qu'on puisse profiter de ce chant si on est convaincu par le Saint-Esprit, parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui fait ce travail, qu'on doit demander pardon. Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. C'est une marque d'affection, c'est une marque d'amour quand il nous reprend, quand il nous parle.